Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Beauté, mon beau souci. Ou ce vice impuni, la lecture. Les titres des œuvres de Valérie Larbeau attirent les amoureux des livres par leur délicatesse et leur sensualité. Pensez à celui-ci, venu tout droit de la fontaine, amant, heureux amant. Ou encore jaune, bleu, blanc. On sait que ce brillant dandy cosmopolite, qui parlait les grandes langues de l'Europe, l'anglais, l'allemand, l'italien et l'espagnol, fut aussi le premier traducteur de Joyce. Il dédia un livre à un saint trop souvent oublié, le patron des traducteurs, Jérôme. Mais Valérie Larbeau écrivit aussi « Les enfantines », sublime recueil de nouvelles sur l'enfance qui disent les sensations de l'enfance, les jeux et les sentiments de l'enfance, les amours, les chagrins, l'imagination, les joies de l'enfance et ses visions du monde. Parmi les nouvelles des enfantines, l'une a pour titre « Les devoirs de vacances ». Elle est lue ici par Inès Nazaris.
Devoirs de vacances. Nous avions acheté du beau papier pour les mettre au net, et des plumes, une boîte entière, et une règle, et une grosse gomme à effacer, douce et sympathique, et une enveloppe pleine de feuilles d'un buvard épais, rose, bleu pâle, vert, violet. Et une boîte de 12 crayons de couleur et du papier à décalquer pour faire les cartes. Nous étions allés de bon matin acheter tout ça au magasin du Louvre la veille du départ. Malheureusement, notre crédit était limité et nous n'avions pas pu acheter ce bel étui de 40 crayons de couleur dont nous avions depuis longtemps envie. Ou bien alors, il nous aurait fallu renoncer à tous les autres objets qui nous étaient nécessaires. Du reste, un étui de 40 crayons de couleur, c'est une chose pour les grandes personnes, un article pour architecte ou pour ingénieur. Plus tard, quand nous serions bacheliers, non, même pas alors, mais quand nous serions licenciés, ou docteurs, ou même, qui sait, auteurs, tout de même, avec 12 crayons de couleur sur fin, on peut déjà faire de bien belles cartes. Comme nous allions travailler, avec quel soin nous allions faire ces devoirs de vacances. Chaque sujet serait traité à fond. Et pour cela, nous ne nous contenterions pas des manuels élémentaires dont nous nous servions au collège, mais nous étudierons les questions dans des traités à l'usage des classes supérieures, et même dans des ouvrages originaux, tels que les Causeries du lundi de Sainte-Beuve. Ensuite, nous recopierions ces devoirs sans une rature, en laissant à chaque feuillet deux marges, une à droite et une à gauche, comme dans les livres. Et à la rentrée, en lisant ces devoirs, le professeur de la classe dans laquelle nous allions passer verrait aussitôt qu'il avait affaire à un excellent élève. Sans doute, au cours de l'année qui venait de finir, nous n'avions pas été un aussi bon élève que pendant les années antérieures. Nous avions même été tout juste passables. Mais maintenant, c'était les grandes vacances. Et puisque nous allions être libres, puisque plus rien ne nous y obligeait, nous allions travailler de tout notre cœur. Nous allions résolument dépasser les limites du programme scolaire et voir ce qu'il y a au-delà. On dirait qu'on nous cache quelque chose, toujours des manuels, des extraits, des morceaux choisis. Nous voulons voir enfin les grands originaux. Adieu Saint-Germain-l'Auxerrois, déchiquetures de pierre bleu noir et de ciel bleu tendre. Adieu, joli vent frais, qui a choisi pour y demeurer tous les étés la pelouse de la colonnade. Nous ferons des listes de ces ouvrages fondamentaux, auxquels nous renvoient toujours les notes au bas des pages de nos bouquins cartonnés. Par exemple, Mommsen pour l'histoire romaine, et la face de la Terre pour la géologie et la géographie physique. Nos parents consentiront sans doute à les acheter pour nous. Et au besoin, nous renoncerions à des accessoires de jeu, à une excursion, et même à ce costume de plage tout blanc dont nous rêvions au mois de juin déjà pendant l'étude du soir. Voici la vieille façade ennuyeuse et sublime de l'Institut de France, où du train où nous allons, nous entrerons sûrement quelques jours. Et voici le tournant étroit et le courant d'air de la rue Mazarine. Par quelle porte entre-t-on à l'Institut ? Oui, il nous faudrait commencer par lire quelques-uns de ces auteurs dont la pensée domine tout le mouvement intellectuel moderne, tels que Bacon ou Descartes ou Kant. Ça serait une bonne initiation. Nous serions alors en possession d'une clé qui nous ouvrirait les appartements particuliers de chacune de ces dames qui sont, comme la marraine de chérubins, belles mais imposantes, les sciences. une fois bien pénétrés de la doctrine d'un de ces grands esprits, tout le reste nous serait aisé, et nous aurions une avance énorme sur tous les autres élèves. Le discours de la méthode, oui, une fois en possession d'une méthode, de la méthode, mais nous avons lu ou entendu dire que Leibniz a en quelque sorte renchéri sur Descartes, et nous savons que sa monadologie est un tout petit livre, joliment édité dans la collection des classiques de chez Hachette. Justement, nous allons passer devant la librairie Hachette. Quelques mots à maman, qui est à côté de nous dans le fiacre, nous l'avions oublié. Et 5 minutes plus tard, nous sommes en possession de la monadologie. C'est un choix heureux. Le nom de Leibniz est moins connu que celui de Descartes, et il suffira qu'on nous voie avec un livre de lui entre les mains pour qu'on nous considère comme un jeune garçon extrêmement studieux, et presque comme un futur savant. Oh, nous allons devenir un monadologiste très distingué. Nous allions commencer tout de suite à l'étudier. Non, demain, dans le train. Aujourd'hui, regardons passer les rues que nous ne reverrons plus qu'à l'époque de la rentrée. Quand déjà, l'automne, au couchant des jours accablés de gloire, défile avec tous ses drapeaux dans l'avenue des Champs-Élysées. Maman a une course à faire avant le déjeuner à Montrouge. Et nous voilà repartis dans le vieux fiacre, lent et sonore, par la ville, où tout est clair, comme dans le style d'un bon auteur. Nous pouvons laisser notre esprit studieux se détendre un moment, dans la contemplation des nobles perspectives. Pourtant, nous aurions bien aimé aller faire un tour au jardin des plantes, prendre congé des hippopotames, et porter, vieux projet, un peu de glace à l'ours blanc qui doit souffrir par ses jours de chaleur au fond de sa fosse cimentée. Du moins, cet après-midi, nous trouverions bien un instant pour visiter une dernière fois la République des Tortues, c'est-à-dire cette vitrine de potelles et chabots au Palais Royal, où, dans un paysage de rochers, de sable et d'eau, on voit une foule de tortues de terre, seules habitantes de ce pays. Il y en a de toutes les tailles, mais les plus remarquables sont deux mères, plus grosses que des cerveaux humains, et qui, la plupart du temps, dorment, la tête et les pattes rentrées dans leur armure de cornes, immobiles et fermées comme des boutiques un dimanche. Mais, avec le long déjeuner et d'autres courses que maman avait à faire, nous n'avons même pas pu revoir la République des Tortues. Et nous sommes rentrés tard à la maison. Et fatigués comme nous l'étions, nous avons été forcés de monter à pied les 3 étages, car l'ascenseur était malade. Nous n'avons pas pu dormir. La vue du paquet qui contenait la papeterie achetée le matin au Louvre nous a rappelé les devoirs de vacances et nos projets d'études. C'est à partir de cette nuit que les vacances commencent vraiment. Et nous voulons les voir commencer. Demain, le départ, le voyage, le déjeuner en wagon et la lecture attentive de la monadologie. Rien ne nous distraira de nos études. Elles seront la grande affaire de notre vie. Et le reste, les petits incidents, les petits plaisirs, les jeux, les aventures sentimentales elles-mêmes, ne seront que des passe-temps auxquels nous saurons ne pas nous abandonner complètement. Nous les cueillerons selon les occasions, mais sans y attacher d'importance. Et ainsi, nous en jouirons sans arrière-pensée. Et s'ils viennent à nous manquer, ou s'ils nous déçoivent, nous n'en souffrirons pas, puisque nous aurons dans notre travail notre vraie raison de vivre. Du reste, l'étude ne nous éloignera pas de ce sentiment profond, de cette grande amitié qui remplit notre existence et qui nous soutient depuis plus d'un an. Au contraire, l'étude et l'amitié, une amitié ardente comme la nôtre, sont des choses de même nature. Ça ne s'explique pas, mais c'est ainsi. Plus nous travaillerons, plus près nous nous sentirons de notre ami bien-aimé. Oh, passion secrète, si pure, si fidèle, si tendre et si furieuse. Les grandes personnes ne la connaîtront jamais. Elles ne comprendraient pas. Aucun mot ne pourrait leur faire comprendre ces choses, puisque ce n'est pas une amitié comme les leurs. Mais nous voici seuls, et il est nuit. Disons à haute voix le prénom de notre ami, ça suffit. Jamais nous ne le nommerons en présence de nos parents, ni de personne. Comme chantait cet ami de maman l'autre soir au piano, « Coupe-moi, brûle-moi, je ne te dirai rien, mon secret, je le garde et je le garde bien. » L'étude, l'amitié et la paix. Nous serons en paix puisque nous savons que notre ami est avec les siens, à la mer. Au collège, nous tremblons toujours. Notre ami est si léger, si imprudent, et les compliments, les flatteries, les cadeaux et même une audace brutale ont tant de pouvoir sur lui. On dirait qu'il fait exprès de nous rendre malheureux. Mais non, il ne songe même pas à cela. Il joue, il se cache derrière les arbres, saute une barrière, court à travers la pelouse, entre dans le bosquet, se laisse rejoindre, reçoit et rend un baiser Et puis il revient à la place où nous l'attendons et il nous dit en riant, « Qu'est-ce que tu as ?» Ou bien nous passons des heures sans faire autre chose que de suivre ses regards et d'épier ses gestes et ses démarches. Et nous bravons toutes les lois pour suivre ses pas et voir où il va et l'empêcher d'aller où nous savons qu'il va. Oh, les trahisons de notre ami et le mal qu'il a dit de nous et ses railleries et ses faux serments sur la tête de sa mère et cette affreuse menace de ne plus nous parler qui nous rend si lâches que nous consentons à fermer les yeux. Oh, cela est fini. Pour 2 mois, notre ami est parmi ses sœurs sous l'aile de son ange gardien. Nous lui écrirons pour lui donner de bons conseils. Et comme il est très doux, qu'il veut tout ce qu'on veut, il nous donnera raison et réformera sa conduite. Oui, il est très doux, mais il y a aussi en lui quelque chose de violent et de sauvage qui ne se laisse attendrir par rien. Incompréhensible ami. Il est paresseux, mais il est aussi très obéissant et respectueux de l'autorité. Et si déférent à la volonté des maîtres que c'est lui qu'il désigne presque toujours pour réciter les prières. Et pourtant, parfois, on dirait qu'ils savent combien il est léger et indiscipliné au fond. Beau fruit secrètement gâté. Mon Dieu, faites qu'il soit sage. Sainte Vierge, vous qu'il aime tant, veillez sur lui. Nous devions nous mettre au travail dès le soir de notre arrivée. Mais il a bien fallu refaire connaissance avec la maison et revoir toutes ces choses qui nous parlent d'un temps lointain, de vacances très anciennes, de journées d'études avant le collège et d'amour avant l'amitié. Il a bien fallu que nous réveillions notre chambre. Nous l'avons réveillée en sursaut, le plancher a craqué si fort que nous avons frémi. Nous avons écouté une fois encore la longue histoire du vent dans les pièces qui ne s'étaient pas réhabituées tout de suite à nous. Et nous avons retrouvé, dans les veines du marbre de la cheminée, l'étroite figure qui nous a regardé d'un air de reproche et de tristesse. Nous l'avions presque oubliée. Mais elle se souvient de tout et elle s'est mise à nous parler des dernières grandes vacances et de celles d'avant. Et des hivers de dans le temps, avec leurs rhumes et leurs tisanes, leurs étrennes, leur odeur de mandarine et leur goût de marron glacé. Et des jouets qui furent neufs, et des petits chiens qui sont morts. Et des longs voyages avec Mungo Park et les enfants du capitaine Grant. Et des jeux avec les enfants des domaines, avec Maria la réjouie qu'on allait torturer à la tombée du jour dans le vestibule, avec Francine aux yeux gris, Francine la sournoise qui avait 17 ans et qui nous faisait chercher son scapulaire. La figure parlait aussi des bois, et elle nous rappelait ces carrières abandonnées que nous avions découvertes un matin, très loin de la maison, au fond d'un vallon où le ruisseau, si grand que nous pouvions à peine le reconnaître, éclairait tout le paysage, et où un ancien chemin, la trace de l'homme, une civilisation disparue, s'effaçait peu à peu. Qui sait ? Il y avait peut-être tout un village enseveli depuis des milliers d'années dans la forêt. Mais assurément, il y avait encore sous la futaie le village nègre, Tombouctou, les 4 grandes fourmilières dont on voyait soudain, à un détour du sentier, les sombres dômes. La journée était trop avancée pour que nous puissions nous mettre en route. Mais le lendemain matin, dès que le soleil a touché le vieux seuil de la maison, nous avons ouvert la porte et nous avons descendu les marches du perron, lentement, étonnés par le silence des champs et la simplicité du ciel. Au bord du petit ruisseau immobile et noir, auquel ne conduit aucun sentier, et qu'on découvre par hasard, tout à coup, dans un repli des taillis, où il n'est qu'un reflet de feuillage amoncelé sur le ciel, nous avons enfin trouvé la solitude. Sans doute, si nous étions si contents d'être en vacances, c'était parce que nous nous retrouvions dans notre famille. En aurait-il pu être autrement? Mais une bonne partie de notre gaieté venait aussi d'avoir enfin trouvé un peu de solitude. Pourquoi donc, à la maison, évitions-nous de rester longtemps seuls avec nos parents? Pourquoi craignions-nous de nous laisser aller à leur raconter des histoires du collège? Était-ce parce que l'expérience d'anciens déboires nous avait instruits? On voit dans les journaux amusants des plaisanteries sur les enfants terribles. Pourquoi n'y a-t-il jamais de plaisanteries sur les parents terribles? C'est peut-être parce qu'ils sont vraiment trop terribles. Mais il y a autre chose. On renonce peu à peu à se faire comprendre. La vie de collège nous a donné tant de souvenirs qui n'ont rien de commun avec ceux de nos parents. On dirait qu'ils ont tout oublié de leur enfance, eux. Et peu à peu, nous nous sommes aperçus que cette partie déjà ancienne de notre existence, que nous avons vécue devant eux, près d'eux, sur leurs genoux, leur a été presque aussi étrangère que notre vie de collège. Ils en ont une version qui diffère de la nôtre. On dirait qu'ils ne nous ont jamais connus. Ils racontent aux étrangers des anecdotes sur notre petite enfance, dans lesquelles nous ne retrouvons rien de ce que notre souvenir a gardé. Ils nous calomnient. On dirait même parfois qu'ils ont pris, pour nous les attribuer, des mots d'enfants qu'ils ont lus dans des livres. Ça nous rend honteux devant les gens. Mais comme nous sommes très lâches, nous rions de nous-mêmes avec les grandes personnes. Heureusement, une pensée que nous gardons pour nous nous console et nous venge. Elles n'ont pas vu la figure. Juste au moment où, las de nos courses, nous allions nous mettre au travail, c'est-à-dire échanger la solitude des bois pour la solitude de notre chambre, notre grand cousin Mathieu est venu passer quelques jours à la maison. « C'est à toi ce bouquin-là, le Leibniz ? Tu vas passer en troisième et tu prépares déjà la philosophie ? Tu n'y comprendras rien, mon vieux. Tiens, prends les raquettes et sortons. » Et en effet, nous avons lu deux fois la monadologie et nous n'y avons pas compris grand-chose. Il nous aurait fallu posséder un commentaire de cet ouvrage. Nous avons été pris d'un grand découragement. C'était donc vrai qu'il fallait faire ces classes, une à une, qu'il n'y avait pas moyen d'anticiper sur le programme des études secondaires, et que malgré la meilleure volonté du monde, il fallait rester dans les rangs. La vue de la monadologie nous a fait rougir, et nous l'avons cachée tout au fond d'un tiroir de la bibliothèque. Mais bientôt ont commencé les préparatifs du départ pour la Bourboule. D'où venait cette joie que nous avions toujours à quitter la maison ? Nous aimions bien nos parents, et ils étaient assurément meilleurs que la plupart des parents. Et c'était des gens bien élevés. Qui donc écrira le livre qu'il y aurait à faire sur les parents mal élevés ? Oui, pourquoi éprouvions-nous toujours une espèce de serrement de cœur à nous retrouver à la maison ? Tout nous paraissait si beau, si luxueux, ailleurs qu'à la maison. Même le bouillon des buffets de gare que papa déclarait « infâme » nous paraissait avoir bien meilleur goût que celui de la table de famille. Mauvais sentiment, sans doute, et que nous devions réprimer. Naturellement, il nous a fallu redécouvrir la Bourboule. Sa grande rue blanche le long d'un torrent, son parc, dont chaque sentier est suivi par un petit ruisseau limpide et bruyant, et sa colline verte tachetée de rochers noirs, comme une montagne en petit, mais assez haute cependant pour que les gens qui s'y promènent paraissent d'en bas semblables à des nains, en sorte que nous en avions fait autrefois un pays à part qui s'appelait la colline des nains. Ensuite, pendant quelques jours, il nous a semblé que nous devenions amoureux de nos voisines de table au restaurant de l'hôtel. Deux petites étrangères qui avaient des nattes d'or rouge, des joues hâlées et roses et des jupes très courtes. Toute la soirée, elles jouaient au volant dans le jardin de l'hôtel et comptaient à haute voix les coups de raquette. Si bien qu'à force de les entendre, nous avons appris à compter jusqu'à 16 dans une langue qui était peut-être l'anglais, peut-être le suédois, nous ne savions pas au juste. Cela a duré jusqu'au jour où nous avons dansé au bal d'enfants du casino avec Solange, la fille de cette comtesse qui était si aimable et si gaie. Mais maman n'aimait pas nous voir jouer avec Solange. Et elle répondait à peine au salut de la comtesse. Nous avions entendu dire, par des gens de l'hôtel qui parlaient de Solange et de sa mère, on fait le vide autour d'elle. Et maman, à qui nous avions demandé des explications, avait répondu « Mon chéri, cette dame n'est pas une femme comme il faut. » Solange était-elle aussi une petite fille pas comme il faut ? Nous ne le saurons jamais. Après Solange, nous avons aimé une petite vendeuse de fleurs qui courait pieds nus derrière les voitures des buveurs d'eau. C'était pour notre tendresse un placement de tout repos, car il nous était absolument impossible d'entrer en relation avec elle. C'était un amour commode, assuré contre toute espèce de déconvenue, et qui n'empiétait pas sur une autre passion qui nous tenait occupés depuis le second jour de notre arrivée à la Bourboule, la passion de l'eau courante. Même, à tout prendre, nos engouements pour les deux petites joueuses de volant, pour Solange et pour la vendeuse de fleurs, n'avaient été que des épisodes secondaires dans notre vie de la Bourboule. Toute remplie par une étude attentive, absorbante, amoureuse des petits ruisseaux du parc. Ensuite, il y eut le rêve de revenir à la maison de notre enfance et de se retrouver dans le silence ininterrompu des champs et des bois. Nous ne savions plus quoi faire. Le ruisseau, les courses dans les bois, c'était un passé trop récent pour que nous eussions plaisir à le revivre. Nous avions pris l'habitude des vacances et elles commençaient à nous paraître vraiment grandes. C'est alors que le goût et le besoin de l'étude nous est revenu avec force. Brusquement, un matin, en nous réveillant, nous avions recouvré l'usage du porte-plume, du papier et des livres, comme un infirme, après une opération, recouvre l'usage d'un sens qu'il avait cru perdu pour toujours. Nous avons vaguement désiré l'hiver et Paris, et les journées studieuses sous le front ami des monuments, dans la rumeur des rues profondes. Oh, nous serions premiers en tout, et notre ami serait fier de nous. Nous lui ferions ses devoirs, comme l'année dernière, quand il venait s'asseoir à côté de nous en étude et qu'il dessinait des pantins dans son cahier pendant que nous résolvions ses problèmes. L'année qui venait, il serait plus sage, sans doute. Il ne chercherait plus auprès d'autres que nous l'aide et la protection dont il avait besoin. En attendant, au travail. En 2 jours, nous avons fait la version latine, qui était cette lettre où Pline le Jeune décrit la ville de Côme. Ce furent peut-être les 2 meilleures journées que nous vécûmes pendant ces grandes vacances. Nous étions seuls dans notre chambre, comme un homme. Et assis à notre table, en face de la fenêtre, nous travaillons avec soin, l'esprit alerte et clair, abordant avec aisance, sans hâte, les difficultés du texte, trouvant parfois une heureuse interprétation, qui donnait à notre version une allure bien française et une désinvolture presque moderne. De temps en temps, nous regardions les champs et les bois qui s'étendaient sous la fenêtre, et il y avait un contraste agréable entre notre activité intellectuelle et cette vie ralentie et monotone de la campagne. Nous avions atteint un des sommets de notre vie. Que pouvions-nous désirer de plus? Quand nous aurions 30 ans, quand nous aurions 40 ans, nous reviendrions passer quelques mois d'été dans la vieille maison de famille pour y travailler en paix à quelque ouvrage d'érudition. Après la version latine, nous avons abordé le devoir de botanique. Sujet, la racine. Oui, la racine. Nous savons qu'il existe une importante différence entre le développement de la racine des dicotylédones et celui de la racine des monocotylédones. Mais en quoi consiste cette différence, nous l'avons oubliée. Oh, peu importe, car nous sommes encore capables de dessiner un beau schéma de la coupe transversale d'une racine, de la racine théorique, où nous représenterons les faisceaux vasculaires en rouge et en bleu les faisceaux libériens. Ensuite, nous consacrerons un paragraphe à la croissance de la racine et au point végétatif, qui est situé non pas à l'extrémité de la racine, mais un peu au-dessus, sous la coiffe protectrice. Nous parlerons ensuite des racines adventives et des poils absorbants. Et si à cela nous ajoutons quelques considérations sur les racines aériennes, qui nous paraissent les plus intéressantes de toutes, nous pourrons être certains que nous aurons fait un bon devoir de botanique. Mais pourtant, nous avons fait de la botanique pendant toute une année. Nous en savons encore un peu. Et nous ne sommes pas parvenus à nous y intéresser. Ces fameuses cellules dont on nous a tant parlé, nous ne les avons jamais vues. Et tout ce développement de la plante, nous ne le connaissons qu'en vertu d'un acte de foi de notre part. Les choses se passent peut-être tout différemment. La botanique qu'on nous apprend est peut-être une science inventée exprès pour exercer l'esprit des écoliers. Qui sait si le latin même n'est pas une grande supercherie pédagogique? Parfois, nous avons pensé que tous les monuments des 2 littératures classiques avaient péri et que les textes qu'on nous faisait étudier étaient en réalité l'œuvre des humanistes qui avaient faim de les avoir retrouvés et qui les avaient reconstitués, ou plutôt inventés de toutes pièces, dans un grec et dans un latin fabriqué par eux. Tant de manuscrits importants qui ont été vus au XVIe siècle se sont mystérieusement perdus depuis. C'était peut-être des faux que leurs auteurs avaient intérêt à faire disparaître. Les humanistes avaient pu inventer ces textes pour se distraire. Ce devaient être des gens qui avaient la plaisanterie lourde. Mais il était plus vraisemblable de penser qu'ils avaient eu en vue l'éducation des futures générations des jeunes élèves. Nous avions la même méfiance pour tout ce qu'on nous enseignait. Cette nourriture intellectuelle qu'on nous présentait toute mâchée nous soulevait le cœur. Et puis enfin, nous n'étions pas des anges pour tout concevoir sans l'aide des sens, pour descendre toujours de l'abstrait au concret. La seule partie des programmes qui avait réussi à nous intéresser était la géologie, parce que nous avions eu la chance de découvrir la boutique d'Eilof, où nous avions pu voir, toucher, et parfois même acquérir, les objets dont les manuels nous parlaient. Nous avons fait notre devoir de botanique, et aussitôt après, nous avons commencé à réfléchir sur le sujet de la composition française. Discuter cette opinion de Lamartine sur La Fontaine. Oui, Lamartine a eu l'audace d'écrire qu'il désapprouvait l'usage de faire lire et apprendre aux enfants les fables de La Fontaine. Nous avons tous été bien contents lorsque nous avons appris cela. Enfin, quelqu'un prenait notre défense contre les grandes personnes. Il fallait non seulement approuver Lamartine, mais lui fournir des arguments, le soutenir de toutes nos forces, écraser les fables sous la magnificence des méditations et des recueillements. Par malheur, l'argument que le poète faisait valoir contre le fabuliste était un argument de grande personne. Les fables de La Fontaine étaient immorales, elles tendaient à dessécher le cœur des enfants, à flétrir leurs généreuses illusions. Oh, à nous que nous importait. Le grand défaut des fables de La Fontaine, à nos yeux, était de manquer de poésie. D'abord, nous avions eu bien de la peine à les comprendre. Le lion, le chien. Quel lion, quel chien? Il y avait les lions du Jardin des Plantes, il y avait des chiens, tous différents les uns des autres, Dingue le fou, Brutus la terreur, et la petite Gypsy, qui était des bien sages. Mais il n'y avait pas le lion, il n'y avait pas le chien. Et puis, ces animaux qui faisaient des discours, qui paraissaient s'occuper des mêmes choses que les grandes personnes. Était-ce des hommes déguisés en bêtes ou des bêtes auxquelles on prêtait les passions et les idées des hommes? En tout cas, ce n'étaient pas des animaux. On leur donnait ce nom, mais on ne nous les faisait pas voir. On aurait dit que le fabuliste ne les avait jamais regardés. Et au bout de chaque fable, il y avait une morale, quelques réflexions bien plates et bien prosaïques, qui nous donnaient l'impression que tout ce qui précédait n'avait été dit que pour en venir là. C'était comme une espèce de théorème, CQFD. Et si au moins il y avait eu un rythme saisissable pour nous, une cadence bien marquée, des rappels de sons, toute la belle danse des rimes, mais pas du tout. À peine le poète paraissait-il un peu lancé, qu'il retombait sans grâce sur un vers trop court. Comment pouvait-on supporter, après les grandes orgues de Lamartine, cet aigre petit solo de flûte? Pourquoi notre beau champion romantique n'avait-il pas dit tout cela? Ajoutant que lui-même, Alphonse de Lamartine, avait infiniment plus de talent que Jean de La Fontaine, et que si on en doutait, il en appelait au jugement de la jeunesse des écoles. Pourquoi était-il allé chercher cette accusation d'immoralité? Elle était plutôt faite pour nous réconcilier avec La Fontaine. Nous étions si pressés de devenir des hommes, pour n'être plus surveillés, pour être enfin un peu pris au sérieux, que nous ne demandions qu'à voir notre cœur se dessécher et nos illusions se flétrir. Mais l'immoralité de La Fontaine était aussi ennuyeuse que sa poésie, car même dans son ouvrage immoral par excellence, dans ses contes que nous avions lus en cachette, il était rebutant, embrouillé, obscur, et malgré tous ses efforts, pas drôle du tout. Mais si nous nous trompions complètement, si, en réalité, nous étions encore trop peu instruits, trop peu cultivés pour comprendre La Fontaine et sentir sa poésie. Sans doute notre oreille encore mal exercée n'aimait que les rythmes vulgaires, faciles à retenir, les airs de café-concert et la musique des bastringues. Elle était incapable d'apprécier les nuances délicates du vers libre de La Fontaine. Justement, l'autre jour, un ami de papa était venu déjeuner à la maison. C'était un président de cour d'appel, un vieux monsieur très instruit, qui avait même publié à Lyon un livre intitulé « Mélange et souvenirs d'un magistrat ». Dans la soirée, on était allé faire un tour au bois. Et en passant près du ruisseau, ce vieillard avait cité le fameux vers « L'onde était transparente ainsi qu'au plus beau jour ». Et pour montrer notre savoir, nous nous étions empressés d'ajouter « Ma commère, la carpe, y faisait 1000 tours avec le brochet sans compère ». Alors monsieur le président nous avait félicités, ajoutant « Ah, La Fontaine, on y revient toujours. Il est le poète de tous les âges de la vie, et on peut l'ouvrir à n'importe quelle page, tout est bon. » Nous ouvrions nos yeux bien grands pour voir où était la poésie de ces vers, et nous ne parvenions pas à la découvrir. L'onde était transparente ainsi qu'au plus beau jour. C'était comme une constatation d'officier ministériel. L'onde était prétentieux, ainsi que était lourd et disgracieux. Et puis pourquoi la carpe était-elle notre commère? Pourquoi le brochet était-il le compère de la carpe? Si un enfant eût trouvé cela et qu'il l'eût dit à un repas de famille, on l'aurait réprimandé. On lui aurait dit qu'il bêtifiait. Et même, on l'aurait peut-être envoyé se coucher. Et encore, ce n'était donc pas un des plus beaux jours, puisqu'on disait ainsi qu'au plus beau jour. Et enfin, où était dans ces vers le mystère de l'eau et ses longues formes sombres qui glissent, tournent, disparaissent lentement? Un ruisseau n'est pas un aquarium. Et aussi, pourquoi comparer ces poissons à des faiseurs de tours? C'était inutile, sans intérêt. C'était même attristant. Comme nous aimions bien mieux ces deux vers où Lamartine décrit une jeune fille qu'il avait connue à Florence. Quand elle fait un pas, on dirait que l'espace s'éclaire et s'agrandit pour tant de majesté. Ouais, tout juste, le vieux magistrat avait raison, et nous avions grand tort de ne pas aimer La Fontaine. Et nous devions bien nous garder d'avouer que nous ne l'aimions pas. Non seulement il nous fallait des rythmes grossiers, mais encore nous demandions à la poésie des inspirations sentimentales et même des images sensuelles. Assurément, il y avait dans les fables une quintessence de poésie, fruit de l'expérience d'un artiste qui n'avait écrit qu'après avoir passé la quarantaine, une goutte de miel, un grain d'encens qui donnait saveur et parfum à tout le livre. Sans doute, plus tard, quand nous serions des hommes, quand nous aurions vécu, nous découvririons à notre tour ce miel précieux et nous saurions le savourer. En attendant, il valait mieux ne pas nous fatiguer à le chercher. Voilà, au fond, tout ce que nous pensions de cette question littéraire. Eh bien, pourquoi ne pas l'écrire? Pourquoi ne pas rédiger un exposé de nos réflexions, en y intercalant l'épisode du magistrat? Et transcrire cet exposé sur une belle copie double, que nous remettrions à la rentrée avec les autres devoirs de vacances au professeur de troisième. Si nous essayions, pour une fois, d'écrire ce que nous pensions? Nous savions bien que c'était impossible. Il fallait donner raison à La Fontaine contre Lamartine, citer la fable des deux amis du Monomotapa, nous étendre un peu sur la bonhomie du fabuliste, ça ferait très bien, et en somme, rappeler le poète du lac au respect de son immortel devancier, qui valait mieux que lui puisqu'il était plus ancien, qu'il appartenait au grand siècle et qu'il était classique. Et c'était vrai tout de même qu'il y a de beaux vers dans La Fontaine. Celui-ci, par exemple. Malherbe avec Racan parmi le cœur des anges. On voit Malherbe et Racan, deux hommes d'un certain âge, avec leur barbe et leurs rides, et vêtus à la mode de leur temps, parmi les cœurs célestes, composés d'un million d'anges éblouissants, aux ailes de toutes les couleurs comme ceux des tableaux italiens. Ces belles créatures avaient fait place pour les deux poètes qui avaient apporté leur lyre et qui chantaient la gloire du Très-Haut dans les salles à perte de vue d'un Louvre éternel. Au-dessous d'eux, dans les ombres, grouillait la ville foule des rois et des grands, pauvres gens qui n'ont pas le pouvoir de se survivre dans la pensée des hommes. Nous remettions à plus tard la composition française et nous allions écrire des poèmes. Nos souvenirs de la Bourboule ne nous laissaient pas tranquilles. Ils demandaient à être exprimés, fixés d'une manière durable. Il fallait dire, et en vers bien réguliers, les journées de la Bourboule. Et cette heure où on sortait de l'hôtel quand le soleil couchant ouvrait toute grande la porte de la montagne et qu'on voyait parmi les rochers inaccessibles la route qui n'a pas été construite par les hommes. Il fallait faire entendre le tintement des dîners sous les petites lumières basses et montrer dans la clarté de 10 heures du matin les nains en marche sur le dos de leurs collines. Mais tout cela ne pouvait pas entrer dans un seul poème. Essayons d'abord de décrire la vie de l'hôtel et les deux petites étrangères jouant au volant dans la cour. Nous y avons consacré tout un jour et la moitié d'une nuit. Et au bout de ce temps, nous avons eu une demi-douzaine de strophes, composées chacune de 2 vers de 9 pieds, 1 de 6, 2 de 9 et 1 de 6. Nous avions eu soin de placer l'action dans un passé déjà lointain. C'était un souvenir d'enfance, et on pouvait supposer que l'auteur était un jeune homme d'au moins 16 ans. Nous avions tant vécu depuis. Il y avait eu notre liaison orageuse avec Solange, notre passion pour la marchande de fleurs, et un long voyage pour entrer à la maison. Malheureusement, nous avions voulu finir par un trait familier, et nous avions pour cela employé une tournure de phrase si familière que nous nous demandions si elle pouvait s'écrire. Surtout, cette expression offrait une difficulté orthographique que nous ne parvenions pas à résoudre. Nous disions « Des deux sœurs, qui m'était la plus chère ? Je ne sais plus au juste, leur mère les habillait pareil. » Ça faisait 3 rimes féminines se suivant, une grosse faute de prosodie. Mais ne pouvait-on pas considérer « pareil » comme un adverbe et écrire « pareil » avec un seul L ? Ah, nous le souhaitions de tout notre cœur, car alors notre poésie eût été absolument régulière, sans une seule faute, et peut-être même digne de figurer après notre mort dans un recueil de morceaux choisis. D'ailleurs, c'était une belle audace que d'avoir employé le vers de 9 pieds. Cela faisait de notre poésie une rareté, et lui vaudrait peut-être un jour l'honneur d'être cité comme exemple dans les manuels de prosodie. Hélas, à la relire de sang-froid, nous avons bien vu qu'elle n'exprimait pas grand-chose de ce que nous avions voulu dire. Elle était assez bien tournée, et récitée avec talent, elle aurait produit un certain effet. Mais à la regarder de près, elle manquait de tout ce que nous appelions poésie. Ah, vraiment, nous n'étions bons à rien. Et papa et maman avaient raison quand ils nous disaient que nous ne ferions jamais rien de propre. À l'âge que nous avons, tous les enfants sont laids et désagréables, nous le savons bien. C'est ce que les grandes personnes appellent l'âge ingrat. C'est l'âge où nous sommes le plus fermés, le plus vaniteux, le plus sot, et où les grâces de l'enfance commencent à nous quitter. Alors il y a comme un mur entre les grandes personnes et nous. Nous nous méfions d'elles, nous ne voulons rien comprendre à leurs idées. Elles parlent, et dans leurs phrases les plus sérieuses, nous nous ingénions à trouver des doubles sens obscènes. Ce sont elles les âmes innocentes, et nous les hommes de plaisir et de vice qui connaissons la vie dans tous les coins. Nous commençons à découvrir qu'elles nous ont joué la comédie de l'austérité et du devoir, et nous prenons notre revanche. Et puis nous les voyons chacune dans son métier, dans son ornière, avec leurs affaires et leurs familles, et surtout avec cette chose mystérieuse qu'elles ne nomment presque jamais, mais qui entre dans toutes leurs pensées, l'argent. L'argent, la machine dangereuse et compliquée dont nous n'avons ni le droit ni le pouvoir de nous servir. Cette machine, ils la possèdent en maître, et voici ce qu'ils en font. Des carrières qui les déforment, des affaires qui sont un outrage à l'esprit, une famille où des enfants comme nous grandissent dans la suggestion, la crainte et l'ignorance de la vie. Nous les voyons, nous les jugeons avec l'impartialité de purs esprits qui n'ont aucun intérêt matériel dans leur monde à eux. Nous les méprisons, nous les détestons, nous les envions.
Il est aisé de comprendre que nous ne leur sommes pas sympathiques. Nous, en particulier, nous étions plus fermés, plus ingrats, plus désarmés devant les grandes personnes que la majorité de nos camarades. Eux savaient se faire prendre au sérieux. Ils avaient du chic, de l'assurance, ils avaient le sentiment bien-être de leur position sociale, et on voyait tout de suite que c'était des fils de famille. Mais nous, nous doutions tellement de nous-mêmes, nous attachions si peu d'importance aux conventions des grandes personnes, nous cherchions si peu à les comprendre, que nous n'essayions même pas d'entrer en rapport avec elles. À nous voir et à nous entendre, on n'aurait pas cru que nous étions un élève assez brillant d'un des plus fameux collèges de la capitale. Et même, parfois, nous avions tout à touche de sortir d'un orphelinat de province. Une fois accompli le petit tour de politesse qu'on nous avait appris, nous nous replions sur nous-mêmes et il n'y avait pas moyen de nous tirer une parole. Même si on parlait des choses que nous aimions le mieux, de la géologie par exemple, nous oublions momentanément tout ce que nous savions et nous écoutions sans broncher les sottises que disaient les grandes personnes qui en étaient encore à la théorie des cataclysmes. Quant à parler de poésie, ça, jamais. C'était un secret aussi grave, aussi sacré que celui de notre amitié. Pourtant, quelquefois, quand nous voyons à quel point nos allures nous faisaient méconnaître, nous essayions de nous faire valoir un peu. Alors, nous étalions notre science tirée de manuels scolaires, ou bien, sachant l'importance que les grandes personnes attachent à la possession de l'argent, nous nous mettions à parler des propriétés de papa, et des chevaux, des voitures et des domestiques de nos parents. Enfin, nous faisions si bien que nous avions l'air tantôt d'un petit pédant et tantôt d'un fils de boutiquier enrichi. Décidément, nous ne savions pas vivre. C'était à désespérer de nous-mêmes. Et nous nous sentions si malheureux que nous revenions bien vite à nos deux refuges, l'amitié et la poésie, celle des autres. Vraiment, nous ne pouvions vivre heureux qu'avec notre petit ami à côté de nous. Ou bien parmi la société imaginaire des donneurs de sérénades et des belles écouteuses. Dans la première brume de l'automne, le train nous rapproche du collège. Nous sommes partis sans avoir eu le temps de revoir le ruisseau, et nous avons oublié de dire adieu à la figure. Le train refoule l'horizon, déchire les forêts, et crie à travers une France voilée, songeuse et solennelle. Adieu, paysage. Il est doux, il est triste aussi de vous quitter. Nous songerons souvent à vous, dans la ville où on ne vous aperçoit d'aucun endroit. Nous essaierons d'imaginer votre vie sous le soleil de novembre et dans la neige de janvier. Ah, si nous pouvions revenir et vous surprendre une nuit d'hiver. Tiens, un oubli, la boîte des crayons de couleur. Oh, tant pis, nous nous en ferons acheter un autre demain matin, au magasin du Louvre. Ah, il y a une chose encore que nous avions oubliée, mais volontairement, les deux ou trois devoirs de vacances que nous avions eu la sottise de faire. Jamais personne ne les remet au professeur, et lui-même ne demande pas à les voir. Les lui remettre, c'est vouloir devenir son élève favori, son chouchou, et c'est mal vu de tout le monde. Sûrement, si par hasard un naïf les a faits et les rapporte au collège, on les lui prendra et on criera sur l'air des lampions « conspué machin !» Ou bien les grands s'en mêleront et les enterreront, selon le rite. Pour ça, ils feront un monôme et défileront dans la cour en chantant « on l'a mis dans la terre glaise pour un prix exorbitant tout en haut du père Lachaise !» Nous ferons partie du monôme et nous aurons soin de grossir la voix car nous serons un troisième. Le souvenir de l'ami fait battre notre cœur. S'il était ici, près de nous, sur la banquette du wagon. Voyager avec lui, visiter avec lui son pays, qui est si lointain qu'il nous faut en voir les timbres-postes sur les lettres qui mettent un mois et demi à venir pour comprendre qu'il n'est pas inaccessible et qu'un jour, peut-être, nous irons l'y voir. Oui, le retrouver devenu un homme, lui dire que nous ne l'avons pas oublié, retrouver toute notre enfance dans son sourire, devenu enfin plus grave, et nous promener avec lui dans les rues de sa ville natale, qui a un nom si doux et dont nous avons tant rêvé. Voyager, toujours, ne plus jamais rentrer au collège, ne plus jamais revenir à la maison. Dès la sortie de la gare, nous avons compris que Paris n'avait pas encore accordé ses bruits. C'était comme l'orchestre, quand les instruments cessaient, chacun de leur côté, avant le geste qui ouvre le pays musical. Chez nous, nous étions les premiers locataires qui rentraient. Nous avons retrouvé notre lit, qui est plus doux, mais plus étroit que celui de la maison de famille. Ah, tout de même, on était bien là-bas tout seul, à l'abri des autres, qu'on va retrouver dans quelques jours. Bon, nous verrons les têtes des nouveaux. En tout cas, nous sommes à Paris, nous sommes sauvés. Voici que le temps nous a ramenés au lieu dont il nous avait fait sortir. C'est bien. Sa lenteur et sa régularité ont leur avantage, et on peut se fier à lui.
Et pourtant, une idée. S'il se détraquait tout à coup, comme lorsque le ressort d'une montre se casse et que les aiguilles se mettent à tourner si vite qu'on cesse de les voir, alors, sans doute, on verrait les montagnes fondre comme des pains de sucre à la pluie, et la vie des hommes serait aussi courte que celle des abeilles.
Oh non, peut-être tranquille. Écoutons ces pas réguliers dans le réveil.
Qu'est-ce qu'il dit ? Demain, demain, demain. Ou le prénom de l'ami ?
Oui, on dirait qu'il le sait.
Ah, à présent c'est autre chose. Il dit « Le mois prochain, le mois prochain. »
Ben quoi, qu'est-ce qu'il y aura le mois prochain ?
Composition en thème grec ? Bon, le voilà qui accélère son pas, et on ne peut plus le suivre. Laissons-le continuer tout seul son voyage. On dirait qu'il se hâte à travers la nuit pour rejoindre les bruits du jour.
Comment donc finissait cette poésie ? Il y avait le mot « mandoline », une mandoline qui jase. Oh, comme tout à coup le bonheur vient nous trouver jusque sur le seuil du sommeil. Après-demain, dans le tumulte d'un soir de rentrée, sous les lumières rouges, dans la poussière, au tournant d'un corridor, une petite main brune se posera doucement sur notre bras.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 25 avril 1956. Vous pouvez l'écouter pendant 1000 jours et la télécharger pendant un an sur le site franceculture.fr. The sun won't set. Not now, not yet. The sun won't set. Not now, not yet. Golden ember spinning round. The day is almost done. I wonder how it felt beneath the early sun. Each sunset keeps me still. The tree has shed its leaves. The wind, the evening chill is hardest to receive. The sun won't set. Starting to get cold, holding on through change. The day grows old. I miss the morning heat fall upon my face. I wish I knew you then. It's always sunset in this place. The sun won't set. Not now, not. The sun won't set.